I cannot sleep. I cannot rest. I cannot dream. I cannot stay silent.
Arras contre les violences policières. Mercredi 17 juin avait lieu un rassemblement devant le Beffroi, rassemblement à la mémoire de toutes les victimes, mais aussi pour entamer un dialogue sur un sujet sensible et sans doute aussi trop longtemps tu. On vous propose d'écouter des extraits des différentes prises de parole de ce rassemblement qui a plutôt pris la forme d'une table ronde publique.
Voilà, bah bonjour. En fait, on s'est recontacté la semaine dernière avec plusieurs personnes pour faire quand même un rassemblement à Arras. Bon, qui bien sûr n'est pas à l'échelle de ce qu'on a pu voir dans les grandes villes, etc. Des rassemblements où il y a eu du monde par rapport à ce qui s'est passé à la fois aux États-Unis, par rapport au fait que ça tombe en même temps que l'affaire Adama Traoré. Nous, d'une manière plus globale, sur Arras, c'est pas une ville où il y a d'habitude des gros rassemblements, etc. Mais on voulait plus proposer, plutôt que d'une manifestation, voilà, un espèce de table ronde, ou en tout cas d'échange de paroles, ou en tout cas se rencontrer, échanger par rapport aux violences policières dans sa globalité. Encore une fois, comme on a pu dire, c'est pas un rassemblement anti-flic, c'est ce qui peut être reproché de part et d'autre. C'est un rassemblement contre les violences policières parce que on a constaté, pas forcément sur Arras, on n'est pas les plus mal lotis par rapport à ça, même si on sait qu'il peut y avoir des abus, mais en tout cas, de ne pas se laisser aller au discours ambiant quand on a des représentants de l'État qui disent qu'il n'y a pas de violence policière, c'est faux. Et le problème, c'est que à force de répéter ça, quand on entend ça, on se dit c'est gros, qui peut croire ça? Et en fait, on se rend compte que la population, dans sa généralité, gobe complètement ça, quoi. Alors que l'ONU, Amnesty International, la Haute Autorité du Conseil d'État constatent une hausse des violences policières. Sur les deux dernières années, surtout avec le mouvement des Gilets jaunes, les mains arrachées, les éborgnés, les mutilés, les coups de matraque, il y en a. Il y a une augmentation, il y a eu plus de victimes de violences policières en manifestation en 2 ans qu'en 20 ans en France. Et c'est insupportable d'entendre un gouvernement qui continue de dire que c'est pas vrai, et puis que ce discours il soit infusé dans la population. Sur un événement où on savait qu'on n'allait pas être beaucoup, il y a eu un article dans La Voix du Nord, les commentaires des gens, encore une fois, c'est pas eux les observateurs ou les sociologues, mais c'est complètement hallucinant. On est pro-casseurs, on défend la délinquance et on est anti-flic. Encore une fois, on n'est pas anti-flic. L'idée presque, c'est si dans les gens qui témoignent, il y avait des flics qui diraient « moi je suis flic, mais je suis pas violent », ce serait le top du débat. Après, je ne sais pas. mais en tout cas, voilà quoi. Et voir profiter de ce genre de rencontre pour se sentir moins seul. Et puis de favoriser l'échange, quoi, parce que je crois que le problème aujourd'hui, c'est que d'un point de vue ou d'un autre, tous les manifestants sont des casseurs, tous les jeunes de banlieue sont des délinquants et tous les flics sont violents. Et je pense qu'à un moment donné, il faut élever le débat et arrêter les scissions. Alors on n'est pas à dire on va tous être main dans la main, mais au moins reprendre un peu la discussion et pas se laisser engrainé par la division qui arrange que l'État et malgré tout sa police qui est là pour protéger l'État, quoi. Et la police, pour moi, je vais pas dire que c'est des victimes, mais en tout cas ils sont pris dans un système où ils ne se rendent même plus compte que même eux, ça va être les premiers baisers le jour où l'État va leur faire à l'envers, quoi. Donc on a parlé de ça il y a une semaine, on a dit c'est pas une grande manif, on a eu des appels en sachant combien de personnes vous attendez, est-ce qu'il y aura de la casse et tout. On savait très bien que c'était plus un espace de parole. Et éventuellement voir par la suite ce qu'on peut faire avec tout ça, quoi. Parce que si vous êtes là, c'est que vous étiez un petit peu intéressé par cet appel et favoriser la discussion et la parole, parce que je crois que c'est ce qui manque maintenant, quoi. Et au retour de manifestations qu'on peut voir, voilà. Encore une fois, les manifestations d'hier contre les soignants, avant le Covid, ils manifestaient pour avoir plus de moyens. Ils se faisaient gazer par la même police qui... Voilà. Je parle que des soignants, mais si on parle que des manifs, il y a de la violence policière en manifestation. Donc, partant de ce constat-là, on a dit qu'on se rassemblait pour discuter de tout ça. L'intersyndicale a relayé les infos et a fait l'appel en préfecture. Et donc voilà. Et suite à ça, comme disait Jean, le maire veut nous rencontrer, enfin une délégation, pour parler. Alors, on ne sait pas pourquoi vraiment, mais en tout cas, à partir du moment où il y a de l'échange, pour maintenant, c'est pas plus mal, quoi.
On est toujours au rassemblement Arras contre les violences policières. On écoute maintenant quelques prises de parole syndicales.
Pour la FSU, bah nous c'est aussi comme pour Solidaire et pour la CGT, c'est une position de base, hein, un fondement de la FSU de lutter contre le racisme et toute forme de discrimination depuis toujours. Hein, c'est dans nos statuts au départ. L'idée du rassemblement et de pouvoir en discuter à Arras aussi, elle fait écho bien sûr, comme tu l'as dit, à ce qui s'est passé aux États-Unis, qui continue de se passer, mais aussi certainement parce que la période du confinement, elle a mis à jour et elle a renforcé ce racisme à différents niveaux. On parle très très peu dans les médias dominants, je vais dire, de ce qui s'est passé dans les centres de rétention. Il faut voir qu'il y a énormément de gens qui ont été contaminés simplement parce qu'ils sont étrangers et que le gouvernement, malgré les demandes de nombreux syndicats et associations humanitaires de libérer les gens des centres de rétention, alors qu'ils n'ont fait aucun délit, hein, ces gens-là, ben non, ils ont resté enfermés. Donc il y a énormément de gens qui sont contaminés simplement, finalement, parce qu'ils sont étrangers. Et la deuxième chose aussi, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de grandes banlieues. Et pendant la période de confinement, les contrôles au faciès systématiquement, les amendes accumulées systématiquement au faciès aussi. Et ça, ce sont des formes de racisme. C'est à la fois un racisme, je dirais, ethnique d'une certaine façon, mais également un racisme social, puisque la plupart des gens qui vivent dans les banlieues sont aussi des gens qui vivent dans des situations sociales compliquées. Okay. Donc, d'une grande précarité. Donc c'est aussi tout ça qui apparaît au jour aujourd'hui, et ça a été certainement exacerbé par toute cette période de confinement. Donc il faut qu'on avance, parce que là on a l'impression d'avoir fait, on parle beaucoup du monde d'après, moi j'ai surtout l'impression qu'il ressemble à celui d'avant-hier. Et donc il va falloir qu'on fasse un gros travail tous ensemble pour qu'on avance vraiment, au lieu de reculer comme on est en train de le faire aujourd'hui.
Merci. Il y a quelqu'un de Solidaire qui veut... Bon, sinon, je dis un mot, je suis aussi à Solidaire. Donc. je suis d'accord évidemment avec ce qu'ont dit Serge et puis Catherine. D'ailleurs, notre intersyndicale locale à Arras, elle fonctionne bien. On est quand même toujours très, très présent. Je voudrais simplement quand même qu'on fasse le lien entre les violences policières, le racisme et les politiques d'État. C'est-à-dire que... si on dénonce les violences policières et le racisme, c'est aussi qu'il y a un lien avec les institutions, avec les politiques qui sont menées. C'est-à-dire que depuis des dizaines d'années, ce à quoi on doit faire face, ce sont des politiques qui remettent en cause tous les acquis sociaux. Tous les acquis sociaux. Et à partir du moment où on remet en cause tous les acquis sociaux, on est amené forcément, du point de vue du pouvoir, à avoir une politique répressive. Et cette politique répressive, elle s'exerce par qui ? Par le biais d'un corps d'État qui est la police. Et la police, d'une certaine manière, elle est instrumentalisée par le régime politique pour avoir une politique de répression de plus en plus autonome. Les bavures, etc., ça vient de là. C'est pas simplement des actes isolés. Bien sûr, on va pas dire tous les flics sont violents, tous les flics sont racistes, mais c'est pas non plus des phénomènes individuels. Ce sont des vrais phénomènes politiques qui sont guidés par ces politiques répressives. Donc ça, c'est la première racine, c'est celle-là. Il y a une deuxième racine à laquelle on a tendance à ne pas penser, c'est la question de la crise écologique. L'État, les États, les classes dominantes ont parfaitement conscience qu'il y a une crise écologique en cours, catastrophique, et que ça va mener à des situations sociales explosives. Comment ils vont faire face à ça ? Ils n'ont pas de politique écologiste, c'est évident. Il n'y a pas de transition. Ceux qui nous racontent qu'il y a une transition écologiste, c'est du bidon. Donc comment ils vont faire face à ça ? Par la répression. Et le fait qu'il y ait des instruments de répression aujourd'hui, c'est pour tenir les populations. Donc si on dénonce la violence policière, si on dénonce le racisme, c'est aussi en pensant à toutes ces dimensions globales auxquelles on doit faire face.
Bravo.
Voilà.
À vue de nez, une soixantaine de personnes ont participé à ce rassemblement contre le racisme et les violences policières à Arras. On écoute d'autres témoignages de participantes au micro de Radio PFM.
Je m'appelle Sacha.
Pourquoi c'était important de venir ici aujourd'hui ?
Moi notamment, la raison principale pour laquelle je suis là, c'était pour donc, les violences policières qui sont présentes et omniprésentes même dans la société. Et notamment, donc, notamment les violences policières sont physiques, ça, dans tous les points qui ont été dits dans cette espèce de réunion maintenant, dans les manifestations, dans le contrôle aux faciès. Mais les violences policières, elles sont aussi psychologiques. Et en fait, là, je pense notamment aux femmes victimes de violences sexistes, sexuelles et conjugales, qui, quand elles portent plainte, la plainte est refusée. Et ça, c'est dans beaucoup de cas, en fait, et c'est illégal, d'après l'article 15.3 du Code pénal, c'est illégal de refuser une plainte. Donc c'était aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà.
Comment on peut faire pour lutter contre les violences policières, contre ce que tu viens de dénoncer ?
Je pense que ça passe beaucoup par l'éducation, en fait. La police, elle sert un système qui est intrinsèquement mauvais, je pense. Et ça parle, il faut vraiment, en fait, il faudrait réformer énormément la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est très très dur aussi à imaginer en fait.
Dernière question, est-ce que toi tu as déjà été confronté personnellement à la violence policière ?
Personnellement, physiquement non, psychologiquement non plus. Voilà, à Arras, je sais que quand je me rendais au commissariat, c'était un petit peu vide. Voilà, donc c'est tout ce que non, personnellement, heureusement, non.
Je m'appelle Audrey.
Pourquoi c'était important d'être là ce soir, toi, pour toi ?
Parce que c'est important, parce que les violences policières, c'est un fait, en fait. On ne refuse pas le monopole de la violence légitime de l'État, mais au vu des répressions actuelles, en fait, et des modes d'interpellation, je trouve ça important de se rassembler maintenant pour ne pas s'en mordre les doigts demain, en fait. Parce que si ça devient une banalité, ce genre de choses, je veux dire, dans 5-10 ans, on s'en mordra les doigts et c'est nos enfants qui en subiront les conséquences. Et pour moi, c'est important d'au moins discuter tous ensemble, d'échanger les points de vue et de voir que, en fait, on n'est pas seul à estimer ce genre de procédé complètement surdimensionné, en fait.
Comment on fait pour lutter contre les violences policières, selon toi, alors
Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'alternatives, en fait. C'est-à-dire, soit on se cache, soit on se confronte à cette violence policière. Mais encore une fois, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Donc on sait qu'on n'est pas en toute légitimité, en plus, à se confronter à cette violence, si on suit vraiment le BABA. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, c'est ça qui est bizarre. Après, dans tout ce qui ressort, moi j'aimerais ne pas déshumaniser le policier en tant qu'être humain, c'est-à-dire ne pas oublier que c'est aussi un être humain et ne pas généraliser en fait à tous les policiers et à toute la police. Et je pense que c'est important aussi de garder un lien, c'est ce qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure, d'essayer de faire des rassemblements avec des policiers, avec la population pour essayer des prises de parole comme ça, et je pense que ce serait intéressant en fait.
Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà été confronté à des violences policières ?
Pas vraiment, parce qu'en plus, non, pas vraiment. Parce qu'au temps où je manifestais beaucoup plus, les répressions étaient beaucoup moindres. Et à part se faire gazer, très sincèrement, moi, j'ai jamais eu... Donc je peux pas dire que je revendique en mon nom, mais plutôt en l'actualité qui se passe. Et je vais citer un exemple. Hier, à Paris, il y a une dame dans le RATP qui était enceinte, qui a subi un plaquage ventral. Voilà. Donc c'était pas dans le cadre d'une manifestation. Elle était pas violente, elle était désarmée, c'était une femme. Elle était enceinte et elle a subi un plaquage ventral. Pour moi, c'est des choses qui sont inadmissibles, en fait. C'est même pas envisageable dans une société comme la nôtre, aujourd'hui.
Morgane.
Moi, je voulais parler aussi, en fait, de la violence crescendo. Si on dit que les manifestants sont violents, c'est parce qu'en face, les autres sont violents. Les attaques sont violentes, socialement parlant. Du coup, ils réagissent. Et du coup, on réagit comment quand on est démunis ? Par la violence, par la colère. Beaucoup de colère dans les manifestants, que ce soit des manifestations féministes, écologiques, il y a beaucoup de colère et on tapasse parce qu'on ne sait pas comment faire pour gérer toute cette colère sociale et économique et aussi écologique, comme Jean l'a dit. Du coup, en fait, ça montre les violences policières montrent aussi une forme de... ils ne savent plus comment faire pour gérer, du coup, et ils vont tapasser, entre guillemets, ils vont gazer, dans des manifestations qui sont totalement pacifistes. Je pense à celle qui était avant le confinement, la manifestation féministe, où elle était pacifiste. On les gaze, on ne sait plus comment les gérer, parce qu'il y a de plus en plus de manifestations qui sont de plus en plus différentes. Et du coup, l'État envoie les policiers en disant « attaquez-les, défendez l'État en les attaquant ».
Je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que je suis arrivé un peu tard. Il y a aussi les violences par rapport à la presse. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, par rapport aux photographes, aux journalistes, ça c'est très inquiétant. Et tu parlais toujours tout à l'heure de politique et d'institutions. On a aussi cassé depuis des dizaines d'années tout ce qui était la police de proximité, qui facilitait, on va dire, des choses quand il y a des conflits. Et ça fait partie aussi des manques et de tout ce qui a été détruit depuis X temps.
C'est un peu l'idée d'aller dans le sens où tu disais que voilà, il y a une chose qui est inadmissible aussi, c'est la violence. Alors il y a la violence, il y a le coup de matraque, il y a la lacrymo, mais ça, on dirait que ça a toujours existé. Mais on a vu arriver, et ça c'est une volonté politique, dans les manifs, des armes de guerre, des armes qui sont déclarées armes de guerre. Et ces armes de guerre, elles mutilent, elles tuent, et alors c'est par palier, parce qu'on va confier des armes de guerre à des gens qui vont tirer dans les yeux. Et ça, c'est le deuxième niveau de violence inacceptable. Et la troisième remarque que je ferai, c'est sur des gens qui n'étaient absolument pas dangereux pour personne. Ce n'étaient pas des terroristes, ils n'étaient pas armés au moment où ils ont perdu un œil. Ils étaient simplement en train de manifester et de défendre un idéal de société. Donc c'est bien manipulé par le haut. Il y a bien une décision politique de distribuer des armes à des gens qui vont s'en servir et mal s'en servir.
Donc au niveau de l'IGPN, moi ce qui me. Enfin, en tout cas, nous ce qui nous a interpellés, c'est justement cette IGPN qui est là et qui juge ses pairs. D'ailleurs, c'est comme si des criminels allaient juger des criminels. Je pense que là, il faut revenir un peu comme un système, un peu comme en Angleterre, où c'est un tribunal de citoyens, au niveau de la juridiction commune, qui juge ces affaires-là, s'il y a un éborgné, s'il y a un mutilé. Hein, comme exemple, je voudrais prendre cette dame à Marseille, qui au troisième étage s'y a pris une grenade, tirait par erreur, un tir tendu au troisième étage. Moi, il faudra m'expliquer dans quelles conditions ça s'est passé, quoi. Parce que celle-là, je n'y crois pas du tout. Ensuite, autre sujet important, c'est que chaque policier ait son numéro d'identification apparent. Alors, j'ai pas regardé là sur les policiers arageois s'ils avaient tous leur numéro Rio d'identification, mais c'est quelque chose sur lequel il faudra absolument exiger qu'il soit présent à chaque fois sur chaque policier. Ce qui permettrait de clarifier toutes les situations.
Je voudrais rebondir sur l'histoire des vidéos qui, justement, nous ont permis d'identifier les bavures, voilà. Et donc, il y a un député LR qui s'appelle Éric Ciotti qui voudrait faire passer une loi interdisant que l'on filme et qu'on diffuse des images de bavures. Et c'est très grave. Si les images n'affleurent pas au grand public, c'est tout, quoi. Il n'y aura plus de preuves, comme avant. Avant, on n'avait pas d'iPhone, machin, les saloperies étaient faites en loose-dé. C'est ce qui risque de revenir, quoi. Donc, il faudra se battre pour maintenir le droit à l'image des journalistes et même de nous, hein, avec le portable, on filme. C'est ce qui les freine un peu encore, d'ailleurs.
Pour reprendre ce que dit Francis, oui, c'est vrai que c'est important. Il y a une nouvelle forme de dénonciation, c'est que maintenant il y a les réseaux sociaux, tout va très vite. Donc dès qu'on voit une bavure, notamment on l'a vu dans les Gilets jaunes, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, on montrait, on mettait sur les réseaux sociaux. Et justement, cette loi, elle est très dangereuse. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une perte de liberté d'expression, tout simplement. Et ça veut dire qu'on manipule les images encore plus. Et ça va être clairement montré. Et là, on peut encore dénoncer et il faut utiliser ce moyen, ce téléphone portable. Mais si on nous dit ça va être un crime si vous dénoncez, dans quelle France on vit en fait ? Dans quelle démocratie on vit ? C'est pas une démocratie celle qui ne comprend pas ses erreurs et qui essaie de les changer, ça n'existe pas. C'est pas une démocratie.
Voilà pour ces témoignages et prises de parole recueillis mercredi dernier à Arras lors de ce rassemblement contre les violences policières. Les participants se sont donné rendez-vous et d'autres actions pourraient avoir lieu dans les jours à venir. On vous tiendra au courant à cette antenne. Tired of watching these murderers get off while we bury the lost love. Innocent brothers and sisters, it's time to wake up, wake up, wake up. Brothers.
brothers and sisters, it's time. You say something, do something, make them. I wonder how many black lives, how many black lives. How many heartbeats turned into flat lines? Oh. How many black lives, how many black lives? Does it take to wake a change? Does it take to wake a change? Does it take to wake a change? We can't let them die in vain. Will it take to wake a change? I cannot wait and be quiet. Oh, change does not come for the silent. I'm tired of excuses for all of these injustices. I'm tired of all the pain, I'm tired of being afraid. I'm tired of all the damn, tired of all I have to say. I'm tired of the blood and all I'm saying, all I'm saying. Brothers and sisters, it's time to wake up, wake up, wake up. Yeah. Brothers and sisters, it's time. You say something, do something, make them. Oh, how many black lives, how many black lives? How many heartbeats turned into flat lines? How many black lives does it take to wake a change? Does it take to wake a change? Does it take to wake a change? We can't let them.